il y a 20 ans juste avant. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, on vient de me prévenir qu'il y avait un conseil de classe ici à partir de 6h15. Donc, si ça se trouve, on va être obligé de partir avant l'heure. On commence après l'heure, on finit avant l'heure. Voilà. Écoutez, on va quand même en profiter entre ces deux extrêmes pour faire un petit peu quelque chose. Et vous vous rappelez que cette séance est la quatrième de ce cycle consacré à la couleur et aux significations de la couleur. Vous vous rappelez que la fois dernière, nous avons commencé à aborder le Moyen-Âge. Hein, c'était la troisième séance. Et vous vous souvenez que, juste un tout petit rappel avec quelques diapositives, nous avions abordé la question du noir. Et je vous rappelle, mais certains d'entre vous étaient encore en vacances à ce moment-là. Hein, donc voilà une petite révision qui s'impose. Je vous rappelle que nous avons vu comment le noir pouvait être, à la fin du Moyen-Âge, puisque nous sommes centrés vraiment sur le Moyen-Âge pour cette dernière séance, comme celle d'aujourd'hui, que le noir était une couleur qui va notamment du fait du deuil que le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, et son fils Charles le Téméraire ont adopté, va être une des couleurs princières préférées de la fin du Moyen-Âge en Europe, qu'il a été une couleur réservée à certains ordres monastiques. On a en particulier parlé des bénédictins et des dominicains. On a vu comment la religion réformée, le protestantisme, à la fin du Moyen-Âge, ou plutôt au début de la Renaissance, imposait également la couleur noire, couleur de la pénitence et, je dirais, d'une certaine humilité. Le noir, c'est aussi la couleur du diable, de l'enfer. Je vous ai montré d'horribles diables, notamment celui-ci. Et nous avions vu aussi comment, vers la fin du Moyen-Âge, s'imposait relativement en Occident, puisque l'Occident est notre champ d'activité, hein, la couleur noire pour le deuil. Les funérailles d'Aix de Bretagne semblant être d'ailleurs un peu le moment à partir duquel le noir devient, si je veux dire, la couleur officielle du deuil. Enfin, nous avions terminé travaillant sur la question du noir, mais cette fois de l'homme noir, mais qui amène aussi cette couleur, entre guillemets, noire, dans les sociétés occidentales. Et nous avions vu comment, à travers la reine de Saba, par exemple, ou Saint Maurice, ce Saint Maur que vous voyez là, le noir va donc, au niveau même de la peau humaine, si vous voulez, s'imposer dans le concert occidental. Voilà, en deux mots très très vite résumés, ce que nous avions vu la fois dernière, en une heure et demie à peu près. Aujourd'hui, nous allons aborder d'autres couleurs, et je voulais en particulier que nous travaillions sur le rouge, qui me paraît, ma foi, une couleur intéressante à regarder d'un peu plus près. Et comme la semaine dernière, selon le même principe, je vais d'abord vous montrer quelques diapositives qui font intervenir le rouge, et après, on reviendra sur ces diapositives en les regardant d'un petit peu plus près et en voyant ce qu'elles resserrent, ce qu'elles renferment concernant cette couleur. Et je vous rappelle, hein, je l'avais dit la dernière fois, mais j'y insiste un peu, que ce travail que nous faisons sur les couleurs n'est en rien un travail, entre guillemets, systématique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire qu'au Moyen-Âge, comme dans d'autres périodes d'ailleurs, le rouge égale simplement une chose, ou le noir, une autre. On a pu voir déjà pour le noir qu'il y avait des contradictions, des ambivalences, qu'il y avait des nuances à apporter dans les interprétations. Il en sera de même pour les couleurs que nous allons aborder aujourd'hui. Alors, concernant le rouge, voilà les œuvres sur lesquelles je voulais que nous travaillions ce soir. Je vous les passe comme ça, libre de commentaires, mais après nous allons revenir dessus pour évidemment les regarder davantage. 8 œuvres, je crois, dans lesquelles le rouge intervient, et pour lesquels nous aurons à discuter dans un instant. Voilà. Alors commençons. Commençons par cette première œuvre. Alors d'abord, comme d'habitude, hein, de quoi s'agit-il? Quel est l'objet que vous avez sous les yeux, hein, puisque avant de se précipiter sur la couleur, il faut comprendre quel est le support de la couleur. Hein, donc, qu'est-ce que c'est d'abord, techniquement parlant, hein, après on regardera ce que c'est que le sujet, mais qu'est-ce que c'est que cette œuvre qui est sous vos yeux?
Une miniature, probablement.
C'est une miniature, absolument. C'est effectivement une enluminure. Ouais. Donc, cette enluminure, qui est donc une pièce de petite dimension et qui orne un ouvrage, représente quoi? Il y a un ange, effectivement, à gauche.
Qui porte un personnage.
Qui porte un personnage. Hein, vous voyez l'ange, vous voyez le personnage qui est porté par lui.
Et puis alors, cet animal étrange avec 1, 2, 3, 4, 6 têtes.
Il y a effectivement un animal étrange avec plusieurs têtes.
Cette femme qui porte...
Pardon ? C'est effectivement dans l'Apocalypse. Hein. C'est une vision de l'Apocalypse. Et cet animal à plusieurs têtes, que fait-il ? Pardon ? Il porte quelqu'un, effectivement. Il a sur son dos quelqu'un. Pardon ? Quelqu'un ange. Hein. Une femme ange. Il s'agit effectivement d'un épisode de l'Apocalypse. Hein. Lequel ? D'abord, l'Apocalypse, c'est quoi ? Avant de voir lequel, peut-être on peut se rappeler ce que c'est que l'Apocalypse. D'abord, qui est-ce qui a écrit l'Apocalypse ?
En principe, Saint Jean. Et le dernier livre du Nouveau Testament.
Absolument. Hein. Donc c'est Saint Jean l'évangéliste, qui a écrit l'Apocalypse, où d'ailleurs ? À Patmos. Hein. À Patmos, dans cette île grecque, aux confins... de la Grèce et de la Turquie aujourd'hui, hein, à Patmos, Saint Jean écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est quoi d'ailleurs ? Qu'est-ce qui se passe dans l'Apocalypse ?
Non, livre des révélations.
Alors aujourd'hui, on dit oh là, c'est l'Apocalypse, l'apocalyptique. Parce qu'effectivement, l'Apocalypse décrit des événements, pourrait-on dire, mais ce n'est pas tout à fait le bon mot, un peu, grandiose et quelquefois très spectaculaire et très négatif, mais pas que. Mais surtout, l'Apocalypse, c'est...
On dit le livre des révélations.
Alors, c'est le livre des révélations. Et, je veux dire, qu'est-ce qui fait la structure de l'Apocalypse ? Qu'est-ce que ça raconte ?
Alors, il y a une histoire de cette ville emblématique... Oui.
Oui, et ce triomphe, en fait, ce triomphe du bien sur le mal, hein, il est structuré comment dans l'Apocalypse ? Comment est-ce que cette Apocalypse de Saint Jean est-elle structurée pour évoquer ce que vous disiez et qu'on pourrait résumer en le triomphe du bien sur le mal ? Est-ce que Saint Jean dit « Oh ben, c'est bien d'être gentil, voilà, il faut être... Comment est-ce qu'il fait pour développer cet argument ? Oui. Et justement, ces choses qu'il décrit, il les décrit pourquoi ou comment, sous quelle forme ? Quelle est la forme littéraire, finalement, qui est la sienne ? Des visions. L'Apocalypse de Saint Jean, c'est une série de visions. En fait, c'est une série de textes, pas toujours très grands, qui sont des visions. Saint Jean, il a des visions, et il décrit ses visions. Et ces visions, qu'est-ce qu'elle raconte ? Elle raconte ce que vous dites, c'est-à-dire qu'elle ne raconte pas simplement des petites fleurs, je sais pas, elle raconte toute une série d'épisodes, soit très dramatiques et terribles, soit plus favorables, qui finalement énoncent la victoire du bien sur le mal. Hein. Mais encore une fois, ces visions, ce n'est pas simplement j'ai vu une dame qui embrasse un petit garçon, oh, c'est le bien qui triomphe. Non, c'est des visions terribles avec des écroulements de villes, avec des cavaliers qui sortent de terre. Enfin, c'est des visions extrêmement spectaculaires. C'est un livre extraordinairement très très beau, extrêmement poétique. Et les blockbusters américains vont se tenir bien derrière ça, parce que c'est vraiment autre chose. Hein. C'est extraordinaire, la Bible de Saint Jean. Hein. C'est un ouvrage d'une force et d'une poésie. C'est très court, d'ailleurs. Hein. C'est pas très long. Hein. Et c'est d'une poésie absolument... C'est magnifique. Hein. C'est très, très beau. Hein. Très, très beau mystiquement, mais très, très beau dans ce que ça raconte. Si vous... Alors là, qu'est-ce qui se passe, à votre avis ? C'est donc ce que vous avez là est une des visions de Saint Jean. Cette miniature illustre une des visions de Saint Jean. À votre avis, qu'est-ce qui se passe ? Tout ça, ben, il s'en passe des choses. Hein.
L'ange présente un saint à la personne qui est sur l'animal.
Alors, l'ange présente un saint à cette personne-là. L'ange montre à cette femme-là le sein qu'il porte. Tout le monde est OK avec ça ?
Ou c'est l'ange qui montre au sein ce qui symbolise le mal qui est en face.
Alors, ce serait peut-être plutôt ça. Plutôt que ce soit l'ange qui montre à cette personne le sein qu'il amène, c'est peut-être plutôt l'ange qui montre au sein la personne en question. D'ailleurs, le saint là, c'est qui ?
Jésus.
C'est pas Jésus.
Lui-même.
Lui-même, c'est-à-dire ? C'est Saint Jean. En fait, c'est une vision de Saint Jean. Donc, ce que vous voyez là, puisque c'est Saint Jean qui a une vision, c'est Saint Jean. Saint Jean, il est là. Il a une vision. Et cette vision, elle est, si j'ose dire, médiatisée par un ange. Hein. C'est l'ange qui amène Jean à avoir une vision, si j'ose dire. Donc, la vision, c'est ça. Hein. Je vous l'ai dit que les visions, ce n'est pas des petites visions. Là, la vision qu'il a, c'est quoi ?
Non.
Alors, on voit effectivement, vous disiez tout à l'heure, un animal a plusieurs têtes. Il en a combien ?
Sept.
Sept, c'est... On en voit tous les jours des animaux à sept têtes. Il n'y a pas de problème. Pardon ? Oui, toujours. Alors, c'est effectivement un chiffre qu'on voit très souvent. Par exemple, 7, ça correspond à quoi ? Alors, les 7 jours de la semaine, effectivement, mais dans un c'est sûrement très mystique, les 7 jours de la semaine, mais il y a peut-être des choses plus...
Les 7 péchés.
Alors, voilà, par exemple, les 7 péchés capitaux. Hein. Il y a 7 péchés capitaux, et là, il y a 7 têtes. Donc, 7 est en effet un chiffre très marqué. Il y en a d'autres, hein, 12, 24. Enfin, 7 est un chiffre très marqué. Il y a, par exemple, 7 péchés capitaux. Et les 7 péchés capitaux, on ne peut pas dire que ce soit vraiment très favorable, les péchés capitaux. Hein. Donc, effectivement, là, vous avez une sorte d'animal qui a 7 têtes, comme si elle concentrait les 7 péchés en question. Hein. Donc, cette bête, qui est d'ailleurs assez monstrueuse, hein, on peut imaginer qu'elle n'incarne pas véritablement le bien.
Mais non, elle est voilà. Comme le diable.
Voilà, c'est une sorte de diable. Qu'est-ce qu'il y a avec cette bête, d'ailleurs, elle est très diabolique aussi.
Elle a des cornes.
Et d'ailleurs, combien est-ce qu'elle a de cornes ?
Ah, ça dépend.
Alors, ça dépend. Celle-là, on a trois. Celle-là, on a une. Hein. En tout cas, elle a des cornes, parfois plusieurs cornes, jusqu'à trois cornes. C'est vraiment une drôle de bête monstrueuse qui est une sorte d'évocation du mal. Hein. Bien. Et effectivement, mais quelqu'un connaît déjà la réponse, cette bête terrible qui s'appelle dans l'Apocalypse la bête. Hein. En fait, il y a plusieurs bêtes. Il y a la bête de la terre, la bête de la mer. Bon, simplifions les choses. Mais cette bête, elle a effectivement sur son dos une figure. Alors, cette figure, ça pourrait être quoi ? On va voir. Pardon ? Alors, c'est la Vierge. Hein, ça pourrait être la Vierge. D'ailleurs, Saint Jean, dans l'Apocalypse, voit à plusieurs reprises la Vierge. Hein. Donc, ça pourrait être la Vierge. Mais là, ça n'est pas la Vierge.
C'est le symbole de la luxure.
Alors, c'est effectivement le symbole de la luxure. Donc, cette figure qui est représentée là est effectivement une évocation de la luxure. Alors, elle tient un objet, une sorte de pyxide, de boîte, si vous voulez. Hein. Alors, ça peut être ça, hein, ça peut être une boîte à parfum qui lui sert dans ses atours. Et alors, cette figure précisément, mais vous l'aviez dit, Madame Blum, tout à l'heure, hein, il s'agit de... Voilà. Absolument. Il s'agit de la figure de la grande prostituée. Et d'ailleurs, cette figure de la grande prostituée est même liée à une ville qui, dans l'Antiquité, est un peu considérée, dans l'Antiquité romaine, comme étant le lieu de tous les vices. Babylone. Hein. C'est la grande prostituée de Babylone. Hein. Cette grande prostituée de Babylone, vous la trouverez souvent. Hein. Vous verrez très très souvent, notamment, je pense, à des chapiteaux dans des églises romanes, hein, où on voit une femme comme ça, avec, on va dire, assez... corpulente, etc., généreuse, hein, qui est représentée, hein, et qui est la figuration de la grande prostituée de Babylone. La grande prostituée de Babylone, c'est vraiment une figure très très importante dans l'art chrétien occidental. C'est elle qui est donc représentée ici. à un moment, hein, un ange montre donc à saint Jean cette espèce de... Alors, il ne fait d'ailleurs que voir cela dans beaucoup d'autres visions, hein, cette espèce de concentré de choses mauvaises que sont la bête qui tient en plus la grande prostituée de Babylone. Hein. Vous avez là, en quelque sorte, deux figures du mal, l'une sur l'autre. Et donc, quel est le problème de la couleur par rapport à la miniature que nous voyons là?
Oui, mais saint Jean aussi est en rouge.
Pardon?
Saint Jean aussi.
Alors,
c'est pas même rouge.
Voilà, alors, c'est ça. Donc, d'abord, vous voyez que la grande prostituée, elle est rouge. Hein, elle est rouge. Mais vous remarquez effectivement que saint Jean l'est aussi. Il n'est d'ailleurs pas que rouge. Hein. Enfin, il est rouge aussi. Hein.
Rouge vert et rouge.
Alors, effectivement, le rouge de saint Jean est plus lumineux. Celui de la grande prostituée est plus sombre, hein, dirons-nous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire par rapport à un sens possible de la couleur rouge, en tout cas dans cette miniature-là?
C'est la luxure, c'est le mal, c'est un péché, c'est un défaut.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le rouge est généralement une couleur qui est effectivement liée au mal, au péché, et en particulier à la luxure. Hein. Oui, mais... En tout cas, toutes les questions charnelles sont très souvent rouges. Hein. Le rouge est une couleur qui est très très souvent celle de, des péchés liés à la chair, si vous voulez. Hein. Alors, vous l'avez remarqué, hein, et je vous le disais tout à l'heure, il ne faut pas imaginer qu'au Moyen-Âge, l'interprétation que là est systématique. Ce n'est pas parce que vous voyez du rouge que, paf, c'est une prostituée ou un mac, si j'ose dire. Hein. Voilà. Hein. D'ailleurs, saint Jean est en rouge.
Et puis l'auréole de
saint Jean, vous voyez ce que je veux dire.
Donc, l'ange, l'auréole.
Voilà, absolument. Donc, il ne faut surtout pas partir du principe, hein, qui serait très simpliste, qu'une couleur égale telle chose. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Hein. Oui.
Il n'y a pas une période des vierges.
Si,
alors, absolument, ça arrive.
Si, si.
Oui, absolument. Oui, non, c'est une chose qui peut arriver, absolument. Hein. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de systématisme de la couleur. Hein. Encore une fois, ce n'est pas rouge égale telle chose. Ce serait un peu trop simpliste, encore une fois, et trop simple, tout simplement. Par contre, il y a souvent la volonté de donner certaines couleurs à certains types, si vous voulez. Alors, la grande prostituée, elle aurait pu être dire, d'une toute autre couleur. Hein. Je vais vous montrer un exemple. Hein. Alors, ça d'abord, voilà la légende de cette diapo. Mais je vous montre un autre exemple de cette même vision de saint Jean. Saint Jean, à nouveau, à qui l'ange montre la grande prostituée. Vous voyez que là, elle est en bleu. Par contre, c'est le dragon, la bête, qui est rouge. Hein, voilà. Mais vous verrez qu'il y a des grandes prostituées qui sont, je ne sais pas, en vert, avec un dragon bleu. Enfin, bon, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pas de systématisme. Donc, je vois ce serait trop simple. Si l'histoire de l'art était comme ça, écoutez, ce ne serait même pas à peine de se voir, parce que vraiment, ce serait vite réglé. Hein. Ce n'est pas ça, l'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est évidemment des quantités d'éléments subtils qui font que vous pouvez voir des grandes prostituées de Babylone qui sont ni rouges, ni je ne sais pas quoi, mais je veux dire que le rouge peut venir souligner, via cette idée du péché de chair, la qualité, entre guillemets, de la grande prostituée. Vous voyez ce que je veux dire? Tout dépend après de la volonté de l'artiste, de sa culture, de l'époque, de où il se trouve, etc. Il y a mille raisons de le voir. Mais encore une fois, voyons que la couleur peut avoir une signification, peut avoir un sens. Alors, on va aller vers une autre diapo. Alors là, assez simple, assez facile. Voilà, c'est l'enfer. Hein. Là, c'est vraiment pas très compliqué. Alors, cet objet que vous avez là aussi, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? C'est-à-dire de que ça représente l'enfer, mais de quel objet, quel est le support de cette représentation? Pardon?
Non, mais
c'est une peinture, mais quel genre de peinture, donc? Pas sur bois.
Sur tissu?
Non plus. Non plus.
Sur parchemin?
Oui, sur parchemin, c'est une enluminure, c'est aussi une miniature. Hein. C'est une miniature qui donc représente effectivement l'enfer. Hein. Et alors, là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à la couleur qui nous intéresse ici, le rouge, par rapport à cette... Voilà, hein, le rouge, c'est le feu. Hein. Et le... Voilà, et le noir. Parce que rappelez-vous la dernière fois, on a déjà parlé de l'enfer, d'ailleurs on en a, si je veux dire, parlé dès le départ. On a vu comment, dans la peinture de la préhistoire, qui est une peinture forcément très chtonienne, hein, qui est faite dans les grottes, dans les tréfonds, hein, et où il faut justement s'éclairer pour faire les peintures en question, le noir avait une place très forte. Et on a parlé du noir la dernière fois. Donc effectivement, l'enfer, cette chose souterraine, hein, dans les sombritudes des grottes, l'enfer est à la fois rouge, les flammes, et noir, parce qu'il est sous terre. Donc le rouge et le noir, si je veux dire, ce n'est pas que l'œuvre de Stendhal que vous connaissez, c'est aussi la couleur infernale. Donc voilà la légende correspondante. Voilà un autre exemple, je pourrais vous en donner mille autres, hein, de représentation infernale. Vous voyez le rouge prime, le rouge, le noir, c'est les grandes couleurs infernales. Ça, j'allais dire, c'est un peu une évidence. Enfin, ça va mieux en le disant. Ceci. Alors là aussi, est-ce que vous pouvez, avant toute chose, me dire de quoi il s'agit ? Quel est l'objet que vous avez sur les yeux ? Après, on verra ce que ça représente, et le rouge, quel est son rôle, hein ?
C'est la scène, non ?
C'est la scène. Mais avant de voir le sujet, voyons de quoi il s'agit. Quel objet vous avez sous les yeux ? Hein, c'est-à-dire quelle œuvre d'art, de quelle œuvre d'art s'agit-il ?
Une peinture, mais...
C'est une, pardon ? Alors, ça, c'est le sujet et l'objet. C'est-à-dire que c'est quoi comme... C'est une peinture sur bois, absolument. Il s'agit donc là d'une peinture sur bois, d'ailleurs d'assez grande dimension. Est-ce que cette peinture sur bois, elle vous dit quelque chose en termes d'époque, en termes peut-être de lieu de conservation, voire d'auteur ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Fin 15e.
Donc on serait autour... Pardon ?
À Venise.
À Venise, donc une peinture italienne peut-être, italienne autour de 1500, italienne fin Moyen-Âge.
Oui, enfin italienne. Ouais. Non, peut-être flamande.
Ou flamande.
À cause de la tête du Christ, à cause des visages.
Donc une œuvre italienne ou flamande, italienne ou nordique ?
Nordique.
Plutôt nordique ?
Oui.
Donc nordique ou italienne, et une œuvre de la fin du Moyen-Âge autour de 1500. Est-ce que tout le monde valide cette vision, qui est un peu duale, hein, puisque pour certains c'est italien, pour d'autres c'est plutôt nordique ? Est-ce qu'il y a des avis dissonants ? Ou est-ce que tout le monde est d'accord avec ça ?
On ne sait pas.
Ah ! Espagnol. Ah, c'est une autre idée.
On va faire le tour.
Est-ce que certains d'entre vous, je ne fais pas un contrôle des connaissances là, mais est-ce que certains d'entre vous étaient à la conférence que j'ai faite il y a 15 jours, 3 semaines, ou un mois d'ailleurs, sur la peinture en Bourgogne au XVIe siècle ?
Oui. Oui, mais l'Espagne et la Flandre, ça marchait ensemble.
Cette œuvre y était.
Hein. Oui.
Cette œuvre y était, je vous l'ai montrée. Et cette œuvre, elle est conservée très proche d'ici, à Autun, au musée Rollin à Autun. On ne peut pas ne pas la voir, elle fait à peu près 3 mètres de haut, hein. Enfin 2 mètres. 2 mètres de haut. Un grand, grand panneau, avec en plus deux volets. Ce que je vous montre là, c'est le centre d'un triptyque, hein. Il y a deux volets latéraux. L'auteur de cette œuvre est sans doute un artiste qui s'appelle Édouard Guérard. Hein. C'est donc une œuvre qui est d'ailleurs, alors ça vous aviez finalement bien trouvé, qui est un artiste, Guérard, qui travaille entre le nord et le sud. C'est-à-dire, c'est un artiste plutôt, très inspiré effectivement par la peinture du nord, mais qui en même temps intègre des éléments du sud. Donc vous aviez dit pour certains, ben non, c'est un italien, puis d'autres, ben non, c'est un nordique. Ben c'est normal, parce que c'est un nordico-italien ou un italiano-nordique, mais qui a travaillé en Bourgogne. La Bourgogne est entre les deux, et finalement, souvent, on n'a pas qu'en Bourgogne, mais notamment en Bourgogne, à la fin 15e, début 16e, ce tableau, il date de 1515, c'est pas compliqué. Hein. On a justement ce phénomène-là. Hein. On est là, effectivement, dans un mélange de ces deux éléments. Alors, dans ce tableau-là, je vais vous mettre légende. Hein. Donc, qu'est-ce que cette œuvre qui est attribuée à Grégoire Guérard vous dit concernant cette fois la question des couleurs?
Le rouge n'est pas dominant, mais non, il est bien distribué.
Oui, il est bien distribué, mais il n'est pas dominant. Donc, il y a quelques éléments rouges.
Principalement des vêtements, pas uniquement.
Alors, le blanc est très important. Hein. Ça. Et pourquoi d'ailleurs? On en a parlé la dernière fois du blanc, comme ça, de manière un peu allusive. Voilà, la pureté. Hein. Le blanc, et d'ailleurs, je vous disais que le blanc. Alors là, s'il y a une chose simple avec les couleurs, c'est bien le blanc. Parce que le bien en Occident, ça a toujours été la même chose. L'idée de l'innocence, de la pureté, etc. Ça, ça ne change pas. C'est comme ça dès le début, ça reste comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant. Donc le blanc, donc le Christ, là, dans cette sainte scène, ne peut pas être sur une nappe verte ou rouge. Hein. Ça, c'est clair, c'est du blanc. Bon, ça, le blanc, il n'y a pas de problème. Judas est en bleu et jaune.
Oui, mais il a les cheveux presque.
Et les cheveux
presque rouges.
Et les cheveux rouges.
Oui.
Judas, que vous voyez où d'ailleurs?
À droite.
Et à quoi vous le reconnaissez, Judas?
À ses cheveux.
Ah, il a une bourse.
Et il a une bourse. Ce qui fait que Judas, on le reconnaît, c'est effectivement ces deux éléments-là. En général, Judas est représenté avec des cheveux et une barbe rouge et avec la bourse. Il a reçu l'argent, hein, l'argent pour la trahison. Donc Judas est généralement, pas toujours, mais très très souvent présenté comme ça. Là aussi c'est la même chose, hein, vous ne verrez pas toujours un Judas avec des cheveux rouges, mais très très souvent, Judas est présenté de la sorte. Hein. Très souvent, Judas est présenté avec des cheveux et une barbe rouge. Décidément, vous voyez que le rouge est une couleur qui déjà était celle de la grande prostituée tout à l'heure. Hein. Elle est maintenant celle de Judas. C'est la couleur, c'est une couleur qui peut évoquer le mal. C'est la couleur de l'enfer, on l'a vu aussi. Hein. L'enfer, la grande prostituée Judas, le rouge est d'une couleur assez habitée, comme vous le remarquez, hein, et pas d'une manière toujours très favorable, c'est le moins que l'on puisse dire. Quelquefois d'ailleurs, et je vous montre là le détail d'une peinture de Duccio di Buonanzegna, hein, mais voyez que ça représente également Judas, à qui on est en train de donner l'argent en question. Mais voyez que là, alors là, il n'a pas les cheveux, ils sont roux foncés, on va dire. Hein. Donc, la photo n'est pas très bonne et surtout, il fait très clair. Mais il est en plus habillé d'une sorte de vêtement rouge, si vous voulez. Donc le rouge est souvent l'attribut de Judas. C'est ses cheveux, encore une fois, c'est plus ou moins le cas ici, c'était vraiment le cas dans le tableau de Guérard. Mais les habits peuvent aussi être rouges.
Il n'est pas tout seul en rouge.
Non, il n'est pas tout seul en rouge, mais de toute façon, ceux qui sont en train de lui confier l'argent ne valent pas mieux que lui, si j'ose dire. Hein. Et puis encore une fois, l'idée, hein, rappelez-vous, c'est pas de dire « il y a du rouge, donc c'est le mal ». Ça, encore une fois, serait trop simple. Hein. Par contre, on représente Judas. Vous êtes un peintre, hein, au Moyen-Âge. Vous avez représenté Judas. Ben, vous allez plus que d'autres couleurs utiliser le rouge, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Rien ne vous oblige. Il n'y a pas de convention absolument drastique. En revanche, si vous êtes un peintre qui a à la fois un peu d'idées, qui veut être dans les codes et faire comprendre aux gens un certain nombre de choses, vous utiliserez plus volontiers le rouge pour faire, par exemple, les cheveux et la barbe de Judas que le brun ou autre. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ce n'est pas systématique, mais c'est une couleur qui, comme les autres, hein, peut être utilisée pour toutes ces évocations. Alors là aussi, je vous passe ceci, là aussi, avant de voir ce que ça représente, de quel objet s'agit-il, qu'est-ce que c'est que chose que vous avez sous les yeux. C'est encore une peinture.
Sur bois.
Et non. Pardon. C'est pas une peinture murale non plus.
Donc tissu.
Non plus. Non plus. Voilà. C'est à nouveau une miniature. C'est à nouveau une peinture sur parchemin, c'est à nouveau une miniature. Hein. Voilà, et cette miniature, elle représente quoi? Des animaux. Et les animaux que vous voyez là, est-ce que vous pourriez, je ne sais pas, en parler un peu?
Ils sont fantastiques. Il y en a plein qu'on connaît, oui.
Voilà, il y a effectivement plein d'animaux qu'on connaît, et puis il y a un certain nombre d'animaux un peu fantastiques. Hein. Vous voyez une licorne là.
Oui, la licorne, on la voit bien.
Il y a une sirène là. Hein. Il y a quoi encore?
Une espèce de monstre. Là.
Oui, un monstre là. Ouais. Dragon. Hein. Donc il y a des animaux fantastiques, puis il y a des animaux réels. Alors par exemple, je ne sais pas, le sanglier, le cerf, hein, voilà. Et puis il y a des animaux qui sont, j'allais dire, réels, normaux, on va dire, mais qui sont un peu anormaux quand même.
Ben, l'éléphant.
L'éléphant. L'éléphant, il a une drôle de, il a une drôle de tête, si j'ose dire.
Hein. Oui, avec un corps bizarre.
À quel endroit?
En haut, à droite de l'éléphant.
Ça?
Oui, il a une tête qui est curieuse.
Oh, c'est une sorte de chien.
Oui, mais c'est pas un chien.
Oui, non, c'est pas un chien très normal. Celui-là est peut-être plus proche d'une réalité canine. Qu'est-ce qu'il y a encore comme animaux, j'allais dire, existants, mais, pardon, il y a, alors, voilà, dans les animaux assez normaux, il y a l'écureuil. Qu'est-ce qui fait d'ailleurs que l'écureuil paraît assez normal quand l'éléphant ne l'est pas?
Au niveau de la couche.
Ben voilà, hein, c'est assez clair qu'un éléphant, on ne voyait pas tous les jours en Occident au Moyen-Âge, alors qu'un écureuil, oui. Hein. Donc l'écureuil est très proche de la réalité, l'éléphant, on est très très loin. Aujourd'hui, ça ne nous apparaît plus. Hein. On a l'impression qu'un éléphant, c'est une évidence. Mais évidemment, au Moyen-Âge, ce n'est pas du tout une évidence. Hein. Il y a des gens qui n'ont jamais vu d'éléphant et qui n'en verront jamais, absolument jamais. Aujourd'hui, évidemment, on est inondé d'une iconographie surabondante. Au Moyen-Âge, non. Donc personne n'a vu d'éléphant, très peu. Hein. Sauf dans les zoos, entre guillemets, hein, les collections d'animaux qu'ont certains princes, où on peut voir des animaux comme ça. Il y a là un certain nombre d'animaux qui ont, de près ou de loin, la couleur qui nous intéresse maintenant. Lesquels, par exemple?
Beaucoup de blancs.
Alors, il y en a fait des blancs.
Des blancs, des noirs, des... Mais le rouge n'apparaît que dans les fonds.
Alors, le rouge n'apparaît que dans le fond. C'est donc une couleur, ici, j'allais dire, d'accompagnement des animaux. Alors, il y a quand même quelques animaux qui sont rouges ou roux. L'écureuil, par exemple. Hein.
Oui.
C'est pas le seul. Alors, le sanglier, il est quand même assez brun. Hein. Mais l'écureuil est bien roux, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Au-dessus, oui. Un lapin. Oui, le lapin. À côté, vous avez un chien. Et là,
hyène.
Une hyène occidentale, si j'ose dire. Ce doit être un renard.
Oh, il est au surpatte. Hein.
Il est au surpatte. Les renards médiévaux sont très au surpatte. Il y a d'ailleurs un autre animal qui est assez roux.
Le singe.
Et le singe, en bas. Ah oui, le singe. Ceux qui sont dans le fond ne doivent pas voir grand-chose. Hein. Voilà, là, vous avez un singe. Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à cette conjonction de cette couleur rousse et de ces animaux que vous venez d'identifier?
Oui.
L'écureuil est gentil et le singe est malin.
Ce qui voudrait dire donc quoi par rapport à cette couleur qui est la leur? L'écureuil est gentil, le singe est malin. L'ambivalence, l'ambiguïté? Non.
Ce sont des animaux intelligents.
Des animaux intelligents. Donc on aurait là, d'après ce que vous dites, enfin ce que certains d'entre vous disent, une nouvelle ambivalence de cette couleur. Voilà que jusqu'à maintenant le rouge était plutôt une couleur assez défavorable, c'est la couleur de Judas, celle de la grande prostituée, c'est la couleur de l'enfer, c'est une couleur qui n'est pas formidable. Et voilà qu'elle dote cette fois des animaux, au contraire, plutôt sympathiques, gentils, intelligents, le singe, l'écureuil. Oui, c'est... Ça vous paraît tenir le coup, ça?
C'est uniquement décoratif.
Uniquement décoratif.
C'est leur couleur.
Alors, c'est leur couleur. De toute façon, un écureuil, les écureuils américains ne sont pas très connus encore à ce moment-là. Hein. Les écureuils sont roux en Occident, effectivement. Hein. Il y a des singes roux, il y en a toutes les couleurs. Enfin, il y en a aussi des roux. le renard, il est roux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a encore comme animal? Vous parliez du lapin. Bah, les lapins et les lièvres, ils sont roux. Hein. Pardon? Ah oui, il y en a un qui est mis en velette, c'est le grand chien. Le grand chien blanc est très mis en velette. Hein.
C'est un sanglier?
Là, vous avez un sanglier. Et là, un hérisson. Qu'est-ce que vous savez de ces quelques animaux, l'écureuil, le renard, le singe, le lapin, au Moyen-Âge? Comment est-ce qu'on les voit? Donc vous disiez l'écureuil gentil, le singe...
Ils prennent des graines, des racontes.
Ils prennent les graines, les singes?
Pas
les singes? Ils peuvent faire des dégâts.
Ils volent,
les singes. Les écureuils aussi.
Le sanglier fait des dégâts.
Les sangliers font des dégâts. Bon, là, encore une fois, il est brun, mais il peut être roux parfois. Oui. Donc, autrement dit, est-ce que cette couleur, pour ces animaux-là, qui sont volontiers roux, lapin ou lièvre, écureuil, est forcément toujours favorable ou non? Vous voyez ça comment? Par exemple, pour quel animal, vous pourriez voir ça, quelle qualité ou défaut pourrait coller à un animal qui, j'allais dire, rebondirait sur l'humain. En partant, encore une fois, des animaux qui sont roux-rouges, hein, puisque c'est bien ça qui nous intéresse dans ce chapitre. Hein. Par exemple, le lapin. Le lapin, il est roux. Si on file cette métaphore que vous disiez entre le lapin et l'homme, qu'est-ce que vous direz? D'abord, le lapin, on l'appelle comment au Moyen-Âge?
Goupil.
Ah non, c'est le renard.
Pardon.
Le conil ou le conin. Conil. Et quelle qualité on attribue au lapin? Pardon? Il se reproduit. Le lapin, c'est le symbole de la lubricité. D'ailleurs, le mot conin doit vous rappeler autre chose. Hein? Voilà. Et le mot que je ne dirai pas vient du mot conin. Et voilà. Donc, au Moyen-Âge, le lapin, c'est en fait le symbole de la lubricité, hein? Du sexe. Le sexe, c'est le lapin.
Pour nous, ça n'a pas de signification comme ça devait en avoir à cette
Absolument.
Époque-là.
Ça ne l'a plus.
Moi, ça me dit
aujourd'hui,
rien.
Le lapin est un petit animal mignon, etc. Au Moyen-Âge, pas du tout. Au Moyen-Âge, le lapin est un animal qui est doté d'une signification lubrique. C'est une sorte de grande prostituée animale, si vous voulez. Alors, encore une fois, là aussi, hein, dès qu'on voit un lapin, on se dit pas « Oh là là voilà !» Mais, si vous voulez, le lapin a aussi cette dimension-là. Vous voyez ce que je veux dire, hein. D'ailleurs, pareil, ben voilà, un chaud lapin, hein. C'est pas pour rien. Vous verrez, j'en ai quelques-unes en tête, vous en avez peut-être en tête aussi. J'ai en tête plusieurs sculptures représentant une vierge à l'enfant, assise, des sculptures, hein, assise sur une pièce de petit théâtre où il y a des lapins qui entrent dans des terriers, etc. Souvent, on se dit, oh, comme c'est mignon ce petit lapin, etc. Non, c'est la vierge qui terrasse les défauts, les péchés, la luxure, vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est pas comme c'est bien ce petit lapin qui est joli,
etc. Par rapport à
l'écureuil, la pape a dit aux Philippines qu'il ne fallait pas se comporter comme des lapins.
Ah ben, vous voyez, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a encore le reflet, n'est-ce pas, cette vision. Vous parliez de l'écureuil également. Alors, l'écureuil au Moyen-Âge, là aussi, hein, dans ce rapport, et voilà encore un animal roux, comment est-ce qu'on voit l'écureuil au Moyen-Âge? L'avarice, d'une part.
Il y avait évidemment le symbole de Fouquet.
Pas, tout à fait, tout à fait. Alors, Fouquet, ce sera évidemment un peu...
Après,
hein, voilà, mais tout à fait. Hein. Donc, l'écureuil, c'est en effet un animal qui est avaricieux, donc c'est quelque part le symbole d'un péché. Et puis, comment est-ce qu'on peut voir également cet écureuil? Encore aujourd'hui, ça me frappe, quand je parle des écureuils, le nombre de gens qui me disent quelque chose concernant les écureuils. Aujourd'hui, hein, c'est pas... Alors qu'est-ce des pâles, oui.
Ça, c'est la marque, justement.
C'est l'économie, on va dire.
Il fait des
voilà, ils engrangent. C'est ça, c'est son côté économe, si on parle positivement, avaricieux, si on parle négativement. Alors, il cache ce qu'il trouve, l'écureuil.
Ou il le perd. Même.
Et il le perd, voilà. L'écureuil, il cache et il perd. C'est qu'au Moyen-Âge, l'écureuil apparaît comme aussi un symbole de la stupidité. Il cache ses noix, il ne les retrouve pas.
Exactement. Toujours vrai.
Et donc, au Moyen-Âge, l'écureuil n'est pas du tout comme aujourd'hui, ce petit animal mignon, etc. C'est un animal qui évoque l'idée de l'avarice et de la bêtise. Bah, c'est comme ça. Vous parliez du singe. Il est, voilà, le singe, vous le disiez tout à l'heure, c'est un animal malin. Hein. On en a parlé au moment du premier atelier, hein, quand on parlait de la peinture nordique, hollandaise ou flamande. Hein, on a vu comment le singe, qui apparaissait systématiquement dans beaucoup d'œuvres, était un animal qui était toujours représenté pour montrer les travers humains. Hein. Le singe, il est malin, il est intelligent, mais il est malin, il est filou. Il y a un autre animal un peu du même genre, roux lui-même, et qui apparaît là, c'est lequel? Le renard, hein, Goupil. Hein, si on a fait le roman de renard, hein, du Goupil, c'est bien pour ça. Hein. Autant d'animaux rouges ou roux. Hein. Donc le roux, le rouge au Moyen-Âge, est décidément, encore une fois, hein, il ne faut pas avoir cette vision sylvatique, rouge égale ça. Mais je veux dire que le rouge et ces animaux rouges sont regardés avec cet œil-là, si vous voulez. La miniature que vous voyez là, elle est tirée d'un traité qui est assez amusant. Nous autres, qui sommes des gens de Bourgogne et qui connaissons Buffon sur le bout du doigt, ignorons qu'avant Buffon, il y a eu un personnage qu'on appelle Barthélemy l'Anglais, qui a écrit une sorte d'encyclopédie des animaux qui s'appelle le Livre de propriété des choses, qui d'ailleurs évoque d'autres questions scientifiques et qui notamment est une sorte de catalogue des animaux humains, des animaux terrestres. Et donc, dans ce livre de la propriété des choses, il y a des quantités d'illustrations avec des animaux. Vous en voyez ici un exemple. Et là. Alors, voilà, là, c'est une peinture. Là, on voit clair, hein, c'est bon.
Où est-ce qu'il en reste?
Où est-ce qu'il en reste? Parce que cette peinture murale, elle est un peu lacunaire, effectivement. Qu'est-ce qui est représenté sur cette peinture murale? Quel est le sujet de... Alors, c'est le portement de croix. Hein. Vous voyez, effectivement...
Le Christ,
et puis la croix qu'il porte. Mais il y a autre chose.
Il y a des morceaux d'ange. Il y a un morceau d'ange.
Il y a un morceau d'ange là.
Il y a un Saint Jean. Ah ben non, là-haut.
Ah là-haut. Là, parce que ça c'est pas un.
Ah ben non, c'est ben non.
Là. Oui, un
ange.
Il y a un religieux en bas. Non, ou un soldat, qu'est-ce que c'est?
C'est difficile à dire.
C'est
peut-être, effectivement. Alors, la partie basse est très, très abîmée.
Oh, oui, mais ça pourrait être un pape et un cardinal, parce qu'il y a le chapeau et la tiare.
Visiblement, on a effectivement deux religieux. Cardinal, ça, c'est sûr. Pape, peut-être, il a une tiare. Ouais.
Primitive.
Ouais. Oui. Comment est-ce qu'on appelle, d'ailleurs, ces banderoles avec des
phylactères.
Des phylactères. Hein, il y a les phylactères, donc des banderoles inscrites. Voilà.
On dirait que la croix passe dans une espèce de...
Oui, c'est bizarre. Oui. Ah oui, c'est bizarre, ça. La croix, elle passe sur une espèce de support. Ah, c'est pour la dresser, peut-être. Hein. Donc, elle serait sur un support, parce que la croix, il a fallu, effectivement, la dresser sur le Golgotha. Hein. Donc, on aurait là une espèce de support qui vient...
Le Christ à l'épée sur terre.
Le Christ à l'épée sur terre.
Donc,
donc le Christ, il a les pieds sur terre, mais on essaie de dresser la croix. C'est pour ça que la croix, elle est posée là-dessus pour qu'on la graisse plus facilement. Sauf que le Christ n'est pas encore sur la croix. Alors comment ils vont le faire pour le clouer si on la dresse?
Parce qu'on a l'impression que quelqu'un fait un contrepoids. Alors,
on a l'impression que quelqu'un fait un contrepoids. L'ange. C'est l'ange, hein?
Oui.
Pour l'aider?
Ah, l'ange le soulage. Donc l'ange, hein, c'est, l'ange vient soulager le Christ du port de la croix. Pourquoi pas? Ah, mais il faut effectivement regarder toutes les possibilités. Hein. Bien, donc je résume, hein. On aurait le Christ qui porte sa croix, il y a un ange qui est là pour l'aider à porter sa croix, et la croix repose sur une espèce de support qui est peut-être là pour aider à l'érection de la croix.
Parce qu'il porte la croix d'une main.
Ah oui, pour la croix d'une main, il est très désinvolte, oui. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que c'est assez pratique d'avoir ça qui l'aide à porter la croix.
Hein. Enfin, il est habillé en rouge quand même.
Il est habillé en rouge. Le Christ est habillé en rouge. Il n'y a que le Christ qui est rouge.
Mais il y a quelque chose en bas, mais...
Alors là, il y a quelque chose en bas. Oui, c'est bien abîmé, on a du mal à dire. Hein. Là, il y a les restes d'un bonhomme. Je suis très abîmé aussi. Le sol est rouge.
Oui.
Le
sang.
Ah. Le sol, le sang. Le sang de qui?
Le sang du Christ.
Mais le sang du Christ qui n'est pas encore...
Ah oui, mais on n'est pas en train de le récupérer dans un calice, là?
C'est pas la descente.
Là?
Non, à gauche.
Là?
Oui.
Là, effectivement, il y a un personnage, un ange, hein, qui porte un calice et qui donne à boire à quelqu'un qui est bien abîmé, le calice. OK?
Mais alors, c'est pas...
Pardon? Ah, le Christ et les larrons. Ben, ça ferait pas mal de larrons. Les larrons, vous les verriez où?
Non.
Hein? Non, il n'y a pas beaucoup de larrons, parce qu'effectivement, il y a ces religieux, là, au premier plan, vous avez raison. Un ange qui donne un calice à boire, on peut penser qu'il y a le sang du Christ. Hein? Bon. Mais il y a peut-être encore des choses à voir que vous n'avez pas vues.
Il y a
vu.
Une colonne, mais la colonne...
Une colonne.
Le... Alors, c'est le lieu de...
La colonne, là?
Oui. Non. Ah. Une colonne torse.
Ah,
oui.
Une colonne. Colonne torsadée.
Oui, on parle toujours... On parle toujours du Christ à la colonne, au moment des crachats et des... Enfin, des...
Je veux dire, alors, le Christ a été lié à une colonne, au moment où on l'a flagellé, etc. Oui. Donc ce sera la colonne du Christ à la colonne.
Mais là, il a quand même l'air en forme. Il a, pas...
il a l'air assez en forme.
Oui, mais...
Je suis d'accord avec vous. Oui. Il a l'air assez en forme.
Mais c'est
pourtant,
pourrait...
il a les pieds sur une sorte de terre rouge. Vous avez dit que ça évoquait le sang. On alors qu'il n'est pas encore crucifié et qu'il a l'air très en forme. C'est vraiment bizarre, cette histoire.
Mais ce sont peut-être différents épisodes.
Ah.
Superposés, enfin.
Il y a un ange qui vous siphonne. Ah, pourquoi vert? Ben là, on parle du rouge, mais peut-être qu'on parlera du vert tout à l'heure. Effectivement, il y a un ange vert.
Mais c'est peut-être pas la...
C'est pas la crucifixion.
Ah, est-ce que c'est vraiment la crucifixion?
Non.
Ben non.
Pas si évident que ça. Hein. Alors, d'accord, vous avez le Christ. OK. Il a l'air sa couronne d'épines, c'est le Christ, il n'y a pas de problème. D'accord, il porte sa couronne, oui, parfait.
Qu'est-ce qui est écrit?
Ah, des choses.
Mais
si je vous le dis, vous allez trouver. Or, il faut regarder, parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas vue.
À gauche, là?
Non. Alors, on pourrait penser qu'il sorte du tombeau, mais ça n'est pas le cas. C'est une bonne idée, mais non.
En bas, il y a une porte ou...
Oui, une porte.
En bas à droite, il y a une porte qui donne dans la salle d'aventure.
Autrement, ce sont des décors.
Autrement, il y a des décors à droite et à gauche. Oui,
oui,
ça, finalement, ça et ça n'a pas grande importance. Et la porte permet d'aller derrière. Mais il y a une chose importante. Pardon ?
Il y a un petit paysage dans le lointain.
Oui, il y a un petit paysage par là. Oui, on voit des maisons, des montagnes, des arbres.
Moi, est-ce que c'est l'âme du Christ après la crucifixion ?
Après la...
Donc, le Christ ressuscité.
Ben, pas vraiment, mais en train.
Ben, dis donc, vous avez des licences avec le Nouveau Testament. Bon, enfin, on ne brûle plus les hérétiques, hein, donc ça va. Oui, attends. Hein. Encore qu'un beau bûcher de carnaval dans la cour de la... Ce serait pas mal. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a une chose que vous avez... Un peu vu, mais pas vraiment interprété, peut-être pas bien regardé.
On dirait une balance.
On dirait une balance, un peu. On dirait un peu une balance. C'est pas une balance, mais il y a une affaire de balance quelque part. On pèse, oui. Il y a une affaire d'instrument. Effectivement.
D'instrument.
Il faut rétablir toute la question dans son intégralité.
Oui, mais le Christ, il a la main transpercée, la main,
ah oui,
sa main gauche. Donc, c'est pas ça.
Et d'ailleurs.
Ah oui, la blessure est là.
Donc, ça veut dire que c'est après.
Donc, effectivement, c'est après sa injection. Mais c'est pas le Christ sortant du tombeau.
Non.
Ça pointe la descente de croix, mais on voit pas trop de. Vous voyez, la croix, elle repose sur cette espèce de support. C'est vraiment bizarre.
C'est Lazare.
Ah, ça pourrait être Lazare. Non. Vous avez raison. Le Christ est descendu au limbe. Hein? Donc on s'en fait. Voilà, pour aller chercher Adam et Ève, hein, parce que le Christ, effectivement, va descendre aux enfers, aux limbes, qui sont une sorte d'antichambre des enfers, pour délivrer une partie de l'humanité, et d'abord Adam et Ève. Hein, une sorte de pardon qu'il accorde. Hein. Mais c'est pas ça. Je vous mets un peu sur la voie.
Oui.
Ce que vous n'avez pas, enfin, ce que vous avez vu, mais pas regardé. C'est ça. Aussi. Aussi que ça parle. Et surtout en Bourgogne. Et ben voilà. Le Christ, il est sur un pressoir. Vous avez là un pressoir. Il y en a 3 tonnes à 2 pas de chez nous. Vous avez là un pressoir. Vous avez même ici la goulotte du pressoir et même un calice avec le vin qui coule dans le calice.
Et la patte du pressoir.
Oui, c'est. Hein, pardon.
On voit la patte du pressoir, le pied du pressoir à droite.
À droite, la patte du pressoir.
À droite de.
Ça. Ça.
Entre les deux.
Ça.
Voilà.
Ah bah oui, oui, oui. Là, vous avez le support du pressoir, effectivement. Et donc, le Christ, il est en train de fouler le raisin. Ce que vous avez là, c'est pas une colonne, c'est quoi ?
C'est la vis du pressoir.
Et le dessus du pressoir, ce qui est en train d'écraser le raisin, mais d'écraser le Christ.
C'est la croix.
C'est la croix. C'est-à-dire que ça, c'est l'élément sur lequel repose la poutre. Poutre qui est donc soutenue, si vous voulez, par cette colonne qui est une vis, et qui petit à petit va presser le Christ, si vous voulez, pour faire jaillir son sang, le sang du Christ.
Oh là là, c'est tordu cette affaire.
En Bourgogne, il faut assumer. C'est ce qu'on appelle la thématique du pressoir mystique. Thématique très importante au Moyen-Âge. Hein ? Il n'y a qu'en Bourgogne qu'on ignore ça. Hein. Pourtant, hein. Le pressoir mystique, c'est une thématique très très importante que vous voyez ici, hein, dans cette peinture qui date de la fin du XVe siècle, hein, mais on en connaît plein d'autres. Hein. Par exemple, je vous en montrer une, mais qui est beaucoup plus facile à voir. C'est pour ça que j'ai préféré vous présenter celle-là, parce qu'elle elle permettait de voir des tas de choses, hein, de se poser des tas de questions. Voilà un autre exemple d'un pressoir mystique. Voilà, là c'est clair. Mais c'est trop clair, hein. C'est important de voir des choses. Hein.
C'était trop facile. C'est quand même. Voilà.
C'est dans son intégralité.
Donc vous voyez, c'est exactement la même chose. Vous avez le Christ, il est sur le pressoir, on est en train de le presser, et le sang du Christ, le vin.
On n'a pas tellement l'habitude de voir ça quand même.
Pardon ?
On ne le voit pas très souvent.
Il y en a pas mal de représentations.
Ah bon ?
Oui, oui, le pressoir mystique. Oui, il y en a un certain nombre de représentations. Ça ne court pas absolument les rues, mais il y en a des représentations. Hein.
Alors, pourquoi le Christ est-il en rouge
dans... Alors, pourquoi le Christ est-il en rouge dans... C'est le sang. Voilà. Le Christ, il est en rouge parce que c'est le sang du Christ, hein, et qu'il foule le raisin qui est son sang, et il est rouge comme le raisin. Ça. Donc, la couleur rouge, elle évoque là la question du sang du Christ. Ah, les phylactères, je ne sais pas.
Ah bon ?
Ils doivent, je suppose, hein, que c'est un certain nombre d'éléments de texte qui doivent... Je n'arrive pas à lire. Non. Non, mais c'est, enfin, de là, moi, je n'arrive pas à lire. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que c'est des évocations de la scène. Peut-être des éléments de l'évangile où il est question du sang du Christ, le vin, je suppose, mais je ne sais pas.
Et son nom est presque... Enfin, Borgogne...
Borgognone. Alors, j'ai su pourquoi on l'appelait Borgognone, mais je ne sais plus. Voilà. Elsa. Alors d'abord, de quel objet s'agit-il, comme d'habitude? Pas compliqué, c'est une peinture. Non. C'est à nouveau... Voilà, une miniature, une enluminure sur parchemin. Qui représente...
Mais ils sont tous rois, apparemment.
Les chevaliers de la table ronde. C'est qui les chevaliers de la table ronde? Les compagnons d'Arthur. Hein. Arthur, c'est qui? Un roi. Oui, de Bretagne, on va dire, oui. Ouais. Et ce roi de Bretagne, il a vécu quand? Oui, c'est ça. Dans un passé hypothétique et lointain, qu'on caserait plus ou moins dans le premier millénaire avant notre ère, vaguement. Okay. Et ce roi Arthur, c'est qui, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait, enfin? Voilà, la quête du Graal. Mais le Graal, c'est quoi?
C'est
ce vase mystique. Et qu'est-ce qu'il a de mystique, ce vase?
Il aurait un rôle.
Parce que il contient le sang du Christ. Le Graal, c'est un vase qui contient le sang du Christ. Et donc, ce Graal, quel est le lien d'Arthur et du Graal, donc? Il le cherche. Il est tout seul?
Non.
Il est avec ses chevaliers. Vous en connaissez certains. Perceval, Lancelot. Il y en a d'autres encore, bien connus. Gauvin.
Hein?
Yvain, hein, qu'on appelle Yvain Noé souvent. Yvain Noé, c'est le nom anglais d'Yvain. Hein. Donc Yvain, hein, voilà. Donc là, vous avez effectivement... Ben, vous avez quoi, là? Alors, et au centre, le Graal, il n'y a que le Graal sur cette miniature?
Non.
Qu'est-ce qu'on voit? Une réunion de... Eh bien, c'est la réunion des chevaliers. Hein. C'est la réunion des chevaliers qui est présidée par qui? Par Arthur, qui est où? Voilà, Artus, il est là. Hein. Vous avez Arthur et les chevaliers, qu'on appelle effectivement les chevaliers de la table ronde. C'est pas par simplement ce qu'ils goûtaient si le vin est bon. Il y a que les chevaliers de la table ronde qui se réunissent autour d'une table ronde. Hein. Et donc, vous voyez les chevaliers, effectivement, réunis autour de la table ronde. Et au milieu, donc, qu'est-ce que vous voyez, effectivement? Voilà, le fameux vase. Hein. Simplement, est-ce qu'il le voit en vrai?
Non.
Pardon? Alors, c'est peut-être pas tout à fait un voile.
Il y a des rayons.
Quelque chose, des rayons, voilà. Hein. Il rayonne, il apparaît dans une sorte de halo de lumière. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a de chaque côté? Des anges. Il y a deux petits anges qui tiennent le Graal. C'est le vrai Graal qui apparaît?
Non, c'est celui espéré.
Voilà, c'est celui espéré. Hein. Parce qu'en fait, les chevaliers de la table ronde, ils n'ont qu'un but, c'est de retrouver le Graal. Hein. Ce vase qui avait accompagné la passion du Christ. Hein. Donc, les chevaliers de la table ronde, leur but va être de retrouver le Graal. Hein. Mais évidemment, ça ne va pas être simple. Il va leur arriver mille et une aventures. Ils vont compter des dragons, des démons, des sorciers, des sorcières, des géants, etc. Il y aura des tremblements de terre, tout ce qu'on veut. C'est toute l'histoire arthurienne qui est la quête du Graal. Mais quand ils se réunissent, vous les voyez là, dans une sorte de transe, si vous voulez, ils voient apparaître l'objet convoité, le Graal. Bien, donc ça, c'est pour la scène qui a présenté. Alors maintenant, par rapport à la couleur rouge.
Il y le
voilà. Fond, c'est le sang. Voilà, le sang, voyez à quel point la scène est rouge, hein, rougeoyante. Hein. Parce que le rouge, c'est aussi, décidément, on vient de le voir avec le pressoir mystique, hein, le rouge, c'est la couleur du sang du Christ. Donc voyez, décidément, ce que je vous disais dès le départ de ces séances, mais c'est très visible aujourd'hui, le rouge, c'est vraiment une couleur très ambivalente. Hein. C'est la couleur de la prostituée de l'enfer, donc le pire, mais c'est la couleur du sang du Christ, le meilleur. Donc cette espèce de dualité d'ambivalence, elle est vraiment très visible. Voilà la légende. Elle est en rouge.
Ah oui, mais avec les fleurs.
Elle est en rouge avec les fleurs.
Ouais. Le buisson de rose.
Buisson de rose. Alors, vous ne m'avez pas dit ce que c'était. C'est une peinture sur moi, vous savez, voilà. Ça, c'est une peinture sur moi. Comment ça ? Là, on est devant un tableau assez grand, d'ailleurs. Vous avez une idée de quand il a été fait et par qui il a été fait ? C'est une œuvre très célèbre.
Dans l'Est de la France.
Dans l'Est de la France.
Mais
Alsacien, absolument.
Oui.
Alsacien, absolument. Le grand peintre de l'Alsace du 15e siècle.
Grunewald.
Oh, vous le connaissez sûrement. Pardon. Grunewald. Alors pas Grunewald, mais c'est la même période. Schongauer, absolument.
Ah oui.
Martin Schongauer. Hein. Là, vous avez le chef-d'œuvre de Martin Schongauer, qui est conservé dans une église à Colmar, où se trouve au musée d'Unterlinde le fameux retable d'Isenheim de Grunewald. Et ça, c'est une peinture de Schongauer, qui représente évidemment la Vierge à l'enfant. Hein, bien. Qu'est-ce que vous pouvez voir d'autre, d'ailleurs, dans cette peinture ? Donc ça représente la Vierge et l'enfant.
Mais elle est
rouge.
Alors oui, effectivement, elle est effectivement en majesté, la couronne, effectivement.
Oui. Hein,
voilà. Et effectivement, elle est représentée dans quel contexte ?
Ben, le buisson de rose.
Voilà, dans un jardin, il y a derrière elle un buisson de rose, et là aussi, la couleur rouge, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ?
Et sur fond d'or.
Et sur fond d'or. Le rouge, c'est le... Et ben voilà, c'est aussi le sang du Christ. La Vierge, elle n'est pas rouge parce que, elle a souhaité se mettre une robe rouge ce jour-là. C'est parce que le rouge, c'est quelque chose qui annonce la passion de son fils. Vous savez, quelquefois, dans certaines peintures médiévales, on voit par exemple l'enfant Jésus qui joue avec une croix.
Oui.
Quelquefois, on voit aussi la Vierge qui a dans les mains, par exemple, une épingle, qui se pique avec l'épingle. Hein. Voilà, autant d'éléments qui évoquent la passion future. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, d'ailleurs, qui évoque la passion, là ? Et voilà, les épines des roses. Les roses, elles ont des épines, et le Christ, il sera couronné d'épines. Donc, effectivement, la rose est quelque chose qui évoque aussi la question du sang du Christ et de la passion du Christ. Hein. Mm-hmm. Et les roses, qu'est-ce que vous auriez à dire sur les roses ?
Elles sont rouges.
Elles sont rouges, aussi. Hein, voilà. Et justement, la rose au Moyen-Âge, c'est quoi sur un plan symbolique et religieux ? Ouais.
Il y a le terme rose mystique, mais
oui.
Je ne sais pas où le raccrocher.
Oui. Alors, oui, surtout la rose rouge, effectivement, il y a des légendes disant que la rose rouge est devenue rouge parce que c'est une goutte du sang du Christ qui l'a tachée depuis la rosée rouge. Hein, enfin, certaines roses, du moins, oui. Mais en fait, au Moyen-Âge, la rose, c'est l'emblème de la Vierge. C'est-à-dire que la rose, c'est la Vierge. Quand on voit une rose au Moyen-Âge, c'est la Vierge qui est derrière, si j'ose dire. Hein. Parce qu'elle est considérée comme la fleur la plus parfaite, la plus délicate, celle qui a la meilleure odeur, la plus subtile, la plus compliquée, en même temps la plus simple, d'une certaine manière. La rose, c'est la fleur, donc c'est la Vierge. C'est la plus parfaite des fleurs, elle évoque la plus parfaite des femmes. Et donc, la Vierge est très souvent associée à la rose. Voilà, alors voilà le petit cartel correspondant. Tiens, par parenthèse, vous avez vu que le cadre, il était sculpté.
Oui.
Oui.
Hein,
voilà.
Vous y voyez quoi ?
Il y a plein de petits personnages.
Oui, plein de petits personnages.
Mais il y a aussi apparemment des branchages.
Oui, il y a des espèces de branchages dans lesquels sont ces petits personnages. Vous ne voyez peut-être pas très bien.
Des saints ?
Non, ce sont des anges musiciens qui accompagnent, c'est souvent le cas. Alors, je vous montre, il y en aurait des milliers, hein, mais je ne vous montre qu'un exemple à chaque fois. Ah. Voilà, un autre exemple. Vous connaissez peut-être ce tableau célèbre. Hein. La Vierge qui est due à un peintre également qui a travaillé en Alsace au XVe siècle. On l'appelle le maître du Paradise Garten, le maître du jardin de paradis. Et qui représente à nouveau, n'est-ce pas, une vierge avec l'enfant hein, et des roses. Hein. La rose, c'est le grand élément qui évoque la vierge, mais aussi par ricochet, effectivement, quand elle est rouge, le sang et la passion du Christ. C'est plus galant. C'est plus courtois. Alors là aussi, comme d'habitude, hein, c'est quoi? Ah, nous sommes des historiens de l'art,
on a une méthode à nous.
Hein. C'est une enluminure, à nouveau, une enluminure. C'est une enluminure, après tout, c'est, en tout cas en France par exemple, hein, c'est le grand domaine de la peinture. Hein. Il y a beaucoup plus d'enluminures conservées que de peintures murales ou que de peintures de chevalet, oui, conservées. Hein. La miniature, l'enluminure, il y en a vraiment beaucoup. Elle représente quoi donc?
Une scène galante.
Une scène galante, oui. Pratiquement, il se passe quoi? Voilà, une dame séduit un monsieur, n'est-ce pas? Il y a trois dames et puis un autre monsieur. Voilà, elles attendent en discutant. Oui, peut-être.
Et le monsieur attend son tour.
Voilà, voilà. Donc on est effectivement, comme vous disiez, devant une scène plus galante. Vous avez surtout utilisé le bon mot qui est celui du Moyen-Âge, plus courtoise. Hein, voilà. Hein, donc on est effectivement là, devant une scène courtoise, où des dames et des messieurs, dans un joli jardin, n'est-ce pas, sont en train de discuter, plus ou moins, comment dire, concrètement, de choses et d'autres. Hein, voilà. Et alors le rouge, qui est assez dominant dans cette scène, hein, il orne le fond, bien sûr, mais il orne également la robe de trois des quatre femmes. Hein. Le rouge, là aussi, quelle valeur il peut avoir dans une œuvre telle que celle-là? Ben voilà, exactement. Hein, là, vraiment, on retourne à ce qu'on disait au départ. Hein. Le rouge, c'est la couleur de l'érotisme au Moyen-Âge. Hein. Voilà. Parce que cette scène est certes courtoise, et l'amour courtois au Moyen-Âge est normalement très chaste. Hein. Un chevalier peut être le champion de sa dame, qui elle-même peut être mariée sans que personne n'y voit aucun mal, hein, et sans qu'il y ait de mal d'ailleurs, hein, sauf dans certains romans. Mais si vous voulez, il y a vraiment une dimension non charnelle qui est très importante. Hein. L'amour courtois est un amour platonique et dénué de sexe, si vous voulez. Hein. Mais pas toujours. Alors le rouge peut être une dimension plus érotique. Le rouge est la couleur de l'érotisme, et donc les scènes courtoises sont volontiers dotées d'une telle couleur. On nous montre un autre exemple. Voilà une autre miniature qui est tirée d'un volume très célèbre, un manuscrit qui s'appelle le Codex Manes, et qui représente toute une série de... Ce codex est intéressant parce qu'il présente toute une série de scènes courtoises avec une sorte de grand vocabulaire sur ce que c'est que l'art courtois au début du XIVe siècle. On y voit notamment cette scène. Hein, comme par hasard, les personnages sont rouges. Hein. Encore une fois, on aurait pu les faire de n'importe quelle autre couleur, mais le fait qu'on les fasse rouges infléchit dans le sens que l'on vient de voir. Hein. Le rouge, c'est la passion amoureuse, c'est l'idée charnelle que l'on a vue, alors là, de manière négative d'emblée, avec la grande prostituée de Babylone. Hein. Donc, toutes les figures courtoises ne sont pas forcément rouges, mais si elles le sont, c'est une note, c'est une nuance de plus qui est amenée dans ce sens. D'accord ? Ah, oui, peut-être.
Peinture sur parchemin.
Ah oui, sur parchemin, oui. Le doigt a dû un peu aller vite. Alors, puisqu'on ne se fait pas vider de la salle, hein, pour l'instant, on va peut-être aborder le jaune. Hein. Donc le jaune, il ne va pas nous tenir trop longtemps. Je vous montre les trois œuvres. Trois œuvres. C'est pas mal, trois œuvres pour le jaune. Oula. Alors, là aussi, de quoi s'agit-il ?
Le baiser de Judas.
Alors, ça, c'est la scène, mais l'objet.
Ah, peinture murale.
Peinture murale. C'est une peinture murale.
Giotto.
Giotto. Hein, une peinture murale de Giotto, donc un peintre italien fin du Moyen-Âge, hein, vivant. Giotto. Et la scène qui est représentée, c'est effectivement le baiser de Judas. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse ici
Judas
par rapport... Voilà, Judas est en jaune. Tiens. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire par rapport à... Alors, qui a eu l'argent? C'est la couleur de la trahison. Hein. Le jaune, effectivement, au Moyen-Âge, est une couleur assez mal vue. C'est une couleur qui évoque l'idée de la trahison.
Cependant, il y a l'or.
Pardon ?
Il y a l'or en même temps.
Alors, justement, il y a, c'est intéressant de vous dire, parce que justement, ça montre bien les grandes nuances qu'il y a. Hein. Autant le jaune est une couleur plutôt défavorable, négative, autant l'or, c'est exactement l'extrême inverse. Hein. Mais évidemment, il y en a une qui brille, il y a l'autre qui est mate. Hein. Donc, le jaune, c'est pas bien, sa couleur, la duplicité, c'est pas net, si vous voulez. Alors que l'or, alors là, c'est une couleur parfaite. Hein. Il y en a qui sont habillés en jaune là-bas. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est dur. C'est dangereux, ces ateliers. C'est très dur. Voilà. Vous noterez d'ailleurs que l'idée de représenter Judas en jaune mais est hyper fréquente. C'est fou le nombre de Judas en jaune. Hein. Voilà. Voilà, par exemple, une œuvre de Frangelico. Alors, il est en jaune avec une tunique orange. Bon, j'en ai choisi deux au hasard, mais il y en a plein d'autres. Hein. Voilà un vitrail alsacien du 15e. Encore en jaune, enfin vraiment c'est très très fréquent. Et là vous voyez en plus qu'il a le corps, enfin la bourse est rouge, son visage est rouge foncé, enfin bon.
Les pieds sont rouges aussi.
Les pieds sont rouges, il est rouge et jaune. Là vraiment, c'est pas la jaune. Hein. Ouais, hein. Pas la jaune.
Mais le jaune. Ceux qui brisent les grèves, même à la retraite, sont appelés des gens.
Ah, je ne savais pas ça. Tiens. Ah oui, ah bon, ben voilà, je ne savais pas du tout. Bon. Ben vous voyez. Voilà, ouais. Alors d'abord, là aussi, quelle œuvre a-t-on devant nous? C'est une peinture sur moi, effectivement. Hein. Sur moi. Qui représente donc quoi? Un fou. Un fou. Et ce fou, qu'est-ce qu'il fait?
Il se cache le visage,
oui. Il rit jaune. Eh ben oui. D'ailleurs, rire jaune, ça veut dire se rire. Hein. Le rire jaune, c'est pas un rire franc. Ouais. C'est un rire un peu coinsouille. Hein. Un peu ambigu. Hein. Rire jaune. Eh bien, ce que ça veut dire. Hein. Qu'est-ce qu'il tient?
Les besicles.
Des besicles, effectivement. Oui, ah oui, dès le Moyen-Âge, il y en a même dans l'Antiquité. Hein. Enfin, c'est le Moyen-Âge qui va. Et alors, qu'est-ce que ce personnage qui rit plus ou moins jaune, hein, qui se cache plus ou moins le visage, et qui a des besicles, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça?
Mais il se moque peut-être de ceux qui le regardent.
Absolument, il se moque de nous. Là, il est en train de s'en payer une bonne tranche, vous voyez, et sur notre dos, vous voyez. Hein. Et ça fait 600 ans que ça dure. Enfin, 500.
Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a une femme derrière.
C'est quoi derrière?
Une femme? Non. Un personnage?
Non.
C'est une tête.
Ouais, mais une tête de...
Une tête de quoi?
La
tête de fou.
La marotte.
Ah, c'est la marotte, exactement. Ce que vous avez là, c'est la marotte. Vous savez qu'un fou a toujours une marotte avec lui. Hein, voilà. D'ailleurs, vous voyez le bâton hein, qui sert de base à la marotte qui est là. Hein. Voilà. Ce fou, par parenthèse, il a aussi dans ses attributs quelque chose d'un peu particulier.
Des oreilles.
Des oreilles, c'est des oreilles de quoi? D'âne. Parce qu'on dit, moi je trouve ça, moi qui ai une ânesse, je trouve ça très vache, on dit que les ânes sont des ânes, mais c'est pas vrai du tout. C'est un animal tout à fait sympathique et passionnant. Voilà, et très intelligent, donc c'est pas du tout gentil de dire que le fou est un âne, au contraire c'est très gentil, parce que le fou c'est qui? Le fou au Moyen-Âge c'est quoi?
C'était lui qui dit...
C'est celui qui...
Alors d'abord c'est une fonction.
magique et distrayait leur.
Alors, c'est celui qui amuse.
Il dit la vérité.
Oui.
Voilà.
Qui dit que le roi est nu, finalement.
Voilà, c'est ça. Voilà. Le fou, c'est pas du tout une espèce de personnage un peu borderline, comme on dirait aujourd'hui. C'est un personnage qui est tout à fait en cours. Hein. C'est un personnage qui est souvent nourri, logé, blanchi aux frais du prince. Il a d'ailleurs intérêt à avoir du talent, le fou, et il en a. Et comme vous disiez, il dit la vérité. C'est-à-dire le seul qui est capable de le dire. Hein. Le fou, il est capable de se ficher du souverain, du prince, aux yeux de tout le monde.
Hein. Et en faisant rire.
Et en faisant rire. Hein. Donc il faut qu'il ait de la répartie, effectivement. D'ailleurs, justement, qu'est-ce qui montre justement, cette espèce de manière que le fou a de dire la vérité dans un tableau tel que celui-ci ?
Les
vésicles. Hein. Parce que finalement, qu'est-ce que ça montre, là, ces vésicles et ce geste-là ?
Ce qui fait qu'on voit qu'elle est.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y a finalement, point n'est besoin de Basic le pourvoir, si vous voulez. Hein. Finalement, il rigole, on invente des lunettes. Enfin, que beu. Il n'a absolument pas besoin de lunettes pour voir vraiment. Donc il enlève ses lunettes et il préfère regarder avec ses yeux même, même s'il est myope, n'est-ce pas ? Il verra mieux. Parce que finalement, point besoin de ses affutions pour voir. Vous voyez, il y a une sorte de réflexion philosophique sur la vraie vision. Hein, la vraie vision des choses. Et alors, au niveau de son habit, vous aviez dit quoi ?
Rouge et jaune.
Il est bicolore. Il est. Rouge et jaune, voilà, hein, rouge et jaune. Hein. Voilà. Donc, décidément, le jaune vous dit quoi, là, à nouveau ? Oui, voilà, c'est ça. Tout ça, c'est quelque chose qui évoque à la fois l'idée de la ruse et du mensonge. Hein. Décidément, il n'est pas net, ce jaune, hein. Comme le fou. Le fou, d'ailleurs, ce qu'il a de net, c'est qu'il ne l'est pas net, précisément. C'est ça qui est bien dans le fou. Hein. C'est que lui, il le porte sur lui. Enfin, je veux dire, c'est clair. Hein. Ce qui est clair, c'est que le fou, il n'est pas clair. Hein.
C'est rouge. Et ça, c'est clair. Et jaune, c'est donc ambigu. C'est
voilà, exactement. Voilà.
On ne sait pas sur quel pied danser.
Absolument. C'est tout à fait ça. On ne sait pas sur quel pied danser. Il est rouge et jaune. Il est les deux. Il est quoi ? Il est rouge ou il est jaune ? Ou les deux, enfin.
C'est pas un jaune lumineux, c'est un jaune
non.
Terne,
oui. Alors, il faudrait voir, parce que entre la lumière de la diapo, l'état de la peinture. Ouais. Mais c'est effectivement un jaune un peu terne. Un peu foncé, hein. Donc vous avez raison, c'est pas un jaune absolument totalement lumineux. Vous avez une idée de qui a fait ça ? Pas sûr, hein, parce que c'est compliqué. Ça. Voilà. C'est une œuvre qui est attribuée, parce que c'est compliqué, un artiste qui s'appelle Otsanon, j'arrive jamais à le dire précisément, voilà, et qui donc représente un fou riant, regardant à travers ses doigts. Il en a fait toute une série, hein. Je vous en ai amené deux, celui-là. J'en ai un autre à vous proposer. Alors, c'est pas le même, hein. Voilà. Mais c'est également un fou. Peut-être, je sais pas. Bon, de toute façon, on va aller jusqu'à la demi, puis voilà. Hein. Voilà. Donc, voilà, en voilà un autre. Hein.
Ah oui, il y a une divinité plus sympathique.
Oui, plus sympathique, il rigole pas mal aussi. Il a des vésicles, vous connaissez la marotte. Hein.
Voilà.
Oui,
pourquoi la tête est-elle couverte ?
Je ne saurais pas vous dire. Pourquoi pas ? Ah oui, toujours, oui. Oui. Un des intérêts du couvre-chef, c'est aussi de donner au couvre-chef des formes particulières. Ouais. Là, on peut lui mettre des oreilles d'âne. Vous savez que souvent, les fous avaient des espèces de cornes molles.
Oui, avec
des grelots, parfois, etc. C'est évidemment toute l'image bien réelle, hein, du fou, du roi, du bouffon. Hein. Mais les bouffons, quelquefois, ils, vraiment, ils étaient extrêmement appréciés. Hein. Charles Quint avait une série de bouffons qui est extrêmement célèbre. Hein. D'ailleurs, vous vous rappelez qu'au XVIIe siècle, Velázquez a peint toute une série de ces bouffons-là, hein, voilà, qui étaient généralement des gens qui avaient, en plus, qui pouvaient avoir un certain pouvoir, hein, qui ont un rôle social capital. Hein. Le bouffon, c'est une figure importante.
Et là, la marotte
La marotte, c'est finalement c'est une sorte de marionnette, hein, mais qui est une sorte d'autre évocation de l'humain, si vous voulez. Quelquefois, le fou peut l'utiliser pour parler avec elle, hein, ou pour lui faire jouer mille rôles. Par exemple, plutôt que de se moquer directement du souverain, il prendra la marotte en s'adressant à elle comme si elle était le souverain, et ça devant le prince. Voilà. Ça permet de dévier un peu le tir, si vous voulez. Hein. C'est une marionnette. Peut-être à Dijon, comme ça, au musée de la ville bourguignonne, il y a, je ne sais plus son nom, je l'ai perdu, mais il y a une marotte comme ça. Une sorte. Pardon ?
Le prince ne peut pas l'accuser de se moquer de lui, voilà. Puisqu'il s'adresse à la marotte.
Voilà, c'est une manière d'être un peu plus subtil et décidément de dévier le tir. Hein, voilà. En s'adressant à sa marotte, le prince n'est pas directement touché, même si lui-même et personne n'en est vraiment dupe. Hein. Tiens, par parenthèse, vous connaissez ce tableau ?
Oui. Si, si. La nef des fous.
La nef des fous. La nef des fous, c'est donc un bateau, nef, sur lequel il y a des gens qui n'ont pas l'air très clairs. Hein. Moins qu'on puisse dire. Hein. Et puis au-dessus, vous voyez quoi ?
Une tête.
Alors, pas... Oui, alors ici, effectivement, oui. Il y a une sorte d'arbre. Qu'est-ce que vous voyez dans l'arbre ?
Une tête.
C'est pas une tête.
Hein ? C'est un oiseau.
C'est un oiseau. C'est une sorte de chouette.
Ah, oui, la tête.
D'ailleurs, la chouette, c'est quoi ?
Tiens.
C'est la sagesse. Hein. Elle est sans doute là pour faire le contrepoint aux cinglés qui sont en dessous. Hein. Là, vous avez Minerve, l'animal de la sagesse, la chouette. Et en dessous, vous avez les fous qui sont en train de faire n'importe quoi. Et là... Non.
On voit pas.
Oh si.
Non.
Oh si.
Il y a un personnage, mais...
Personnage, mais...
Je sais pas.
Il est bossu.
Oui, il est un petit peu contrefait, on va dire, oui.
Il
est
un
sceptre.
Qu'est-ce qu'on voit pas ?
Ah, la marotte.
Eh bien, il a une marotte. Ah, il a une marotte. Ce que vous avez là, c'est un fou. C'est un fou. Il a sa marotte, il a son chapeau avec ses bonnets. Ce Zoïdan, c'est le même. C'est pas le même. Mais c'est un fou. S'il s'appelle un nef des fous, c'est qu'il y a des fous. Hein. Et ben voilà un fou. C'est-à-dire que vous avez des cinglés, là, et il y en a un plus que les autres, c'est lui. Parce que les fous sont quelquefois plus ou moins difformes, ou un peu petits, ou carrément nains, etc. Il y a toutes sortes de possibilités. Et donc, là, vous avez un fou qui, en effet, est un peu bossu, mais ça fait partie du truc, si je veux dire, et qui a, vous le voyez, sa marotte, etc. Hein. Et comme par hasard, il est représenté de quelle couleur ?
En jaune.
Ben voilà, un jaune vert, verdâtre, verdâtre. Hein. Souvent comme ça, les couleurs vont vers une couleur en âtre. Vous le connaissez, ce tableau, qui est où ? Non, pas à Dijon. Et il est de qui ? Jérôme Bosch. Hein. C'est une œuvre de Jérôme Bosch. Non. Il est à Paris, au musée du Louvre. C'est d'ailleurs le seul tableau de Bosch qui est au Louvre. C'est un tableau qui n'est pas très grand, d'ailleurs. Alors, chose amusante, du reste, ce tableau, que vous irez voir, hein, c'est un chef-d'œuvre, hein, ce tableau, La Nef des Fous, voilà, est présenté au Louvre depuis fort longtemps. Et puis, il se trouve que, il y a quelques années, voilà donc le cartel, identifié dans un musée américain, l'université de Yale, le petit tableau de Jérôme Bosch que vous voyez ici, hein, qui représente à nouveau, mais ça c'est typique de Bosch, hein, des choses un peu spéciales. Là vous voyez un type sur un tonneau en train de voguer plus ou moins, avec des gens tout nus qui l'accompagnent. Là sur la terre ferme, vous voyez des gens qui sont en train de faire des choses plus ou moins convenables. Enfin bref, hein, vous savez, chez Bosch, c'est toujours très haut en couleur. Hein. Et on a remarqué, vous voyez le petit personnage avec là une sorte de marotte à nouveau, hein. Sauf que là, au bout de la marotte, il y a des végétaux. Eh bien, on a remarqué que ces végétaux-là correspondaient en fait à cette masse de végétaux que vous voyez là. En fait, ces deux éléments sont deux morceaux d'un même volet. C'est-à-dire qu'à l'origine, ça faisait ça.
Ah oui.
Vous voyez ce que je veux dire ? Hein, vous avez une nef des fous. Alors aujourd'hui, évidemment, les deux tableaux n'ont pas, qui ont été coupés à une époque X ou Y, hein, n'ont pas forcément la même couleur, parce qu'il y en a peut-être un qui a été plus nettoyé que l'autre, etc. Mais vous avez l'eau qui continue, et donc là, vous avez ce bonhomme avec son truc végétal sur l'épaule, vous voyez, hein. Et alors, il se trouve qu'on sait aussi, c'est pour ça que je vous ai présenté ça à côté, on sait aussi que ça et ce panneau-là, qui est à Washington, à la National Gallery, formaient deux volets d'un triptyque dont le panneau central, lui, a disparu. Parce que il faut savoir que là, la partie supérieure a été repeinte En fait, on a trouvé par radiographie que c'était arqué, là, comme là. Ah. Voilà. Et on vous le devinez un peu, hein, on sent... Voilà, hein. Alors, la chouette est bonne, elle existait bel et bien, mais dans un arc, encore une fois. Hein. Donc, voilà une petite histoire que je voulais vous montrer, qui est assez amusante.
À droite, c'est la mort.
Alors, oui, oui, à droite. Alors, précisément, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à droite?
Oui, il y a la mort.
Il y a la mort qui débarque. Mais pourquoi? Il y a en effet un malade qui va vraiment pas très bien. Alors, il appelle la mort. Je suis pas sûr qu'il l'appelle. Il en a un petit peu peur.
De toute façon, elle est là.
Bah, elle est là. Qu'est-ce qui se passe devant?
Il y a un ange en bas.
Il y a un ange, effectivement, derrière. Hein. Là, vous voyez un ange qui accompagne...
Oh, mais il n'y a pas un petit démon.
Il y a un petit démon, là.
Non, mais plus bas.
Où ça, là? Oh, ben, il y en a même pas mal. Voilà. Il y a des tas de petits démons, là. Et il y en a même un, là. Pardon? La femme du lieu, à vrai dire, c'est pas une femme. C'est un homme. Mais que ce soit une femme ou un homme, c'est pas très grave. Surtout, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre-là?
Des personnages.
Alors, il y a en effet des petits démons, mais il n'y a pas que des petits démons.
C'est l'enfer.
C'est pas l'enfer. Là, vous avez quelque chose, par exemple, dans lequel le monsieur est en train de verser des choses. Qu'est-ce que ça peut être? Dans un coffre, on met quoi? Se débarrasser de choses et souvenirs.
De l'argent, peut-être.
De l'argent.
Enfin, des pièces.
Des pièces. Après tout, quand on a de l'argent, on ne laisse pas trop traîner. Hein. On le met dans un coffre. Et aujourd'hui, on met aussi parfois encore l'argent dans un coffre.
Un bonbon.
Oui.
Ouais.
Ben, c'est ce qui se passe là. Autrement dit, la scène de droite, elle représente quoi? Vous avez donc là un coffre plein d'argent. Il y a des monstres intérieurs. Pourquoi il y a des monstres intérieurs? À cause de l'argent. L'argent, c'est vil, c'est pas bien, c'est monstrueux. Donc vous avez un coffre avec des monstres à l'intérieur, et quelqu'un donc qui ouvre le coffre pour en rajouter encore, semble-t-il. Ça veut dire que ce tableau, il évoque quoi?
La mort d'un avare.
Eh ben voilà, c'est la mort de l'avare. Hein. Vous avez l'avare qui est dans le lit là. Hein. Il a thésaurisé des tas de richesses. C'est un avare, hein. Il y a des monstres partout qui montrent vraiment que c'est un type pas terrible. Et la mort vient le chercher. Hein. Bon, alors il y a bien l'ange qui est là et qui essaie de plaider sa cause. Hein. Il y a d'ailleurs le crucifix qui est ici. Enfin, vous voyez que là, il y a un petit monstre qui vient le tenter encore en lui amenant un énorme sac de pièces de monnaie. Hein. D'ici qu'au dernier moment, il en prenne encore. Hein. Allez, voilà. Donc c'était un polyptyque comme Bosch les aimait beaucoup, avec toute une série de défauts humains comme ça, montrés sous un jour très caricatural. Des fous d'un côté et un avaricieux, un avare de l'autre. Et là, on va en terminer là-dessus. Qu'est-ce que... Alors, c'est une peinture, hein, voilà. Peinture sur toile, là, en l'occurrence, oui. Que représente-t-elle? Le Christ. Eh ben voilà. Ça représente évidemment le Christ et la femme adultère. Hein. La femme adultère, elle est là. Vous vous rappelez ce qui se passe? Eh oui. Elle est en jaune et en vert. Vous vous rappelez ce que c'est que cet épisode?
Ne jetez pas la pierre.
Voilà, absolument. Hein. C'est-à-dire qu'un jour, le Christ arrive dans une ville dont je ne sais plus le nom. Il voit un attroupement. Il y a au milieu de l'attroupement, qui est fait que d'hommes, hein, une femme qu'on a mise par terre. Et le Christ s'approche et les gens lui disent « Ouais, on va la lapider parce que c'est une femme qui est adultère, qui a trompé son mari, etc. » Et le Christ va écrire sur le sol devant eux la fameuse phrase « Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Vous connaissez cette phrase. Hein, voilà. Très bel épisode. Hein. Et bien, c'est ce qui est présenté là. Et vous avez le Christ au centre, tous les gens autour qui sont en train de dire « d'essayer. » Et donc la femme adultère qui est là, qu'on a traînée là, mais qu'il va donc protéger.
Et le Christ est en rouge.
Le Christ est en rouge et en bleu, effectivement. Mais encore une fois, hein, c'est pas parce que le rouge... on a vu l'air qu'il avait des propriétés ambivalentes. Hein, c'est la prostituée et le sang du Christ.
Là, c'est le pardon.
Ça peut être ça. Hein. Voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, y a, les peintres sont aussi des peintres, donc ils jouent également avec des couleurs, quelquefois sans aller, si je veux dire, chercher midi à 14h. C'est ça qui est compliqué, vous voyez ce que je veux dire, dans l'iconographie, notamment médiévale. Là, on est dans un tableau qui est là plutôt du début de la Renaissance. C'est-à-dire qu'il faut, à la fois, il faut, on peut regarder la couleur avec le sens qui est le sien, mais il ne faut pas non plus... systématiser ce sens, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans l'industrie quoi, ou A plus B fait C quoi, voilà. Hein, on est dans des nuances qui font que quelquefois une couleur peut dire quelque chose, quelquefois pas obligatoire. Par exemple, pour le Christ, la femme adultère, souvent on remarque que la femme adultère est représentée en jaune, parce qu'elle a cette espèce de duplicité l'on a reconnue déjà chez le fou. Ça, c'est un tableau de Lorenzo Lotto, hein. Mais voilà, par exemple, une œuvre d'un émule d'Albrecht de Dürer, hein, mais tardif d'ailleurs, hein, et qui représente, vous voyez, à nouveau ça, avec la femme adultère qui est en jaune et vert. Hein. Le vert, on en reparlera, mais la prochaine fois plutôt. Hein. Voilà. Hein. Je crois que j'en ai également un autre, un tableau de Luca Cranach, où là, chose amusante, avec la prostituée, enfin la femme adultère, c'est pas une prostituée.
Elle est en rouge et le Christ est en vert.
Elle est en rouge. Hein. Oui, blanc. Oui.
Et en noir. Voilà. De blanc et de noir.
Vous voyez que la femme adultère, elle est dans une sorte d'orange qui peut tirer, si on veut, vers le jaune, mais qui tire surtout vers le rouge, quoi. Hein. Ce qui ne nous étonnera pas quand on sait ce qu'on a vu tout à fait au départ. Hein.
Le Christ est en vert.
Le Christ est en vert, oui, un bleu vert. Hein. Mais ça, on en reparlera, mais plutôt la prochaine fois du vert, parce qu'on n'aura pas le temps de l'aborder aujourd'hui. Voilà, alors je crois que c'était la dernière diapo. D'ailleurs, quel rectile ? Ben oui, ben c'est là, on va pouvoir laisser le... Voilà, ben écoutez, le verre, on ne va pas le faire aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses. On le verra donc la prochaine fois. Et on va pouvoir laisser la place au conseil de classe.
Donc il doit être ailleurs.
Oui.